I've seen things you people wouldn't believe.
Écoutez Parlons Travelling et Gros Plan, une émission entièrement consacrée au cinéma sur Radio B et diffusée tous les premiers jeudis du mois à 7h30, 8h30 et 12h30.
Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez Travelling et Gros Plan.
Et quand il eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait « Viens et vois ». Et je regardais et je vis un cheval fauve. Et celui qui était monté dessus avait pour nom la mort et l'enfer suivait après lui. Il leur fut donné puissance sur la quatrième partie de la terre pour tuer avec l'épée, par la famine, la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. C'est l'Apocalypse de Saint Jean qui a inspiré le titre du film russe « Viens et vois », retitré chez nous « Requiem pour un massacre » qui a été réalisé par Elem Klimov en 1985 et dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est sans aucun doute l'un des films les plus marquants de l'histoire du cinéma et comme son titre le laisse deviner, ce n'est pas une comédie. C'est un film très dur, mais particulièrement fascinant, sur les exactions commises par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en Biélorussie. Contrairement à la liste de Schindler, Requiem est moins larmoyant que choquant, il provoque davantage la sidération que l'émotion, et je vais vous livrer quelques pistes pour essayer de comprendre ce qui rend ce film si unique et si marquant. Requiem pour un massacre évoque un aspect de la Seconde Guerre mondiale assez peu évoqué au cinéma, puisque nous sommes du côté des pays de l'Est et en particulier de leurs campagnes pauvres. À partir de 1941, cette région fut occupée de façon particulièrement cruelle et exploitée pour ravitailler les troupes allemandes sur le front russe. Et tout comme chez nous, une partie de la population est entrée en collaboration, tandis que l'autre, que l'on appelle les partisans, a pris le maquis en menant des actions militaires contre l'envahisseur. Sauf que ces actions, voire le simple soupçon de leur existence potentielle, pouvaient entraîner des répressions radicales et sans pitié. Ce ne sont pas seulement les résistants qui sont assassinés, mais des villages entiers qui sont ravagés, surtout en 1943. Si en France ce type de massacre est resté exceptionnel, on se souvient en particulier de celui d'Oradour-sur-Glane, il faut savoir qu'il se compte par milliers à l'Est, et plus particulièrement en Biélorussie, où l'on dénombre environ 9000 villages détruits. Et là-bas, c'est le massacre du village de Katyn le 22 mars 1943 qui est resté le plus dans les mémoires. Au cours de celui-ci, toute sa population fut réunie dans un cabanon par un bataillon de nazis qui le brûla ensuite. Et c'est là que nous en venons à notre film, car c'est l'écrivain biélorusse Alès Adamovitch qui a documenté cet épisode en allant recueillir lui-même les témoignages des survivants, ainsi que ceux des autres villages de Biélorussie. Et ceci lui ont permis d'écrire deux livres, « Je suis du village en feu » en 77, qui est une énorme compilation de témoignages, et le roman « Katyn » en 71. Ces deux livres ont beaucoup marqué le réalisateur russe Elem Klimov, qui s'en inspira ensuite pour « Requiem pour un massacre », tout en allant lui-même recueillir des témoignages complémentaires sur place. Le film se passe donc en Biélorussie en 1943 dans un petit village où vit Fliora, un jeune garçon qui va trouver un fusil en creusant dans le sol près de chez lui. Sauf qu'à ce moment précis, un petit avion allemand surveillant la zone va l'apercevoir. C'est lui que l'on vient d'entendre dans l'extrait. Il ne le sait pas encore, mais cela aura de graves conséquences. Le fait de détenir une arme va lui permettre d'intégrer le clan des partisans, donc des résistants, Il quitte alors sa maison, laissant sa mère et ses deux petites sœurs derrière lui, et se retrouve dans une forêt servant de QG aux combattants rebelles. Laissé sur place pour garder le camp pendant que les autres sont partis au combat, il rencontre Glasha, une jeune fille avec qui il se lie d'amitié, mais ils devront rapidement fuir la forêt car le camp sera bombardé. Il retourne alors chez lui avec son ami, mais il ne trouve qu'un village désert et une maison vide. Il décide alors de rejoindre un îlot de terre au milieu des marécages, persuadé que les villageois et sa famille s'y sont réfugiés. Durant la fuite, Glasha aperçoit furtivement un amoncellement de cadavres derrière la maison, laissant deviner que la mère et les sœurs de Fliora sont mortes. Sur l'îlot, il retrouvera effectivement des réfugiés et partira avec deux d'entre eux pour rechercher de la nourriture dans les alentours. Après une longue errance, Fliora retrouvera la route de son village et sera témoin d'une grande opération durant laquelle un groupe de nazis regroupera la population dans l'église avant d'y mettre feu. Il sera l'un des seuls survivants du massacre et retrouvera ensuite Glasha, revenu terrorisé et en sang au village.
Скрывать от вас не будем. Время наступает тяжелое. Что такое блокада? Старые партизаны знают хорошо. Это и есть тотальная война Гитлера.
Пожалей себя, сынок. Сынок.
Ce récit s'inspire d'un événement historique tragique, mais il y ajoute deux éléments fondamentaux. Tout d'abord, il se place du point de vue d'un enfant, et il lui fait porter tout le poids moral des événements. Alors ce n'est pas le premier film de guerre russe à avoir un enfant comme personnage principal, puisque c'était déjà le cas de L'Enfance d'Ivan, réalisé en 1962 par Tarkovsky, mais ici c'est un choix très personnel, puisque ça répond au propre vécu des deux auteurs. En effet, l'écrivain Alès Adamovitch, qui est co-scénariste du film, avait 13 ans en 1941 lorsque son pays fut envahi, et c'est à 15 ans qu'il a lui-même rejoint les partisans avec sa mère. Son héros est donc en quelque sorte son double. Et le réalisateur Elem Klimov avait lui 9 ans à cette époque. Et il a vécu d'impressionnantes scènes de guerre lorsqu'il fuit à Stalingrad avec sa famille sous les bombardements. On comprend donc bien son intérêt pour cette histoire, à laquelle il apportera l'autre dimension essentielle, à savoir la culpabilisation du garçon. Car tout le film repose sur l'idée que le jeune Fliora serait le responsable indirect de toutes les atrocités que subiront son village. En effet, le premier personnage apparaissant à l'écran est un vieillard qui lui reproche de creuser dans le sable pour déterrer des équipements militaires abandonnés. Il lui dit bien que c'est dangereux, et plus tard, quand il aura été gravement brûlé, il lui imputera clairement la responsabilité d'avoir déclenché la colère des Allemands. Le garçon prendra alors conscience de la gravité des choses et en sera mortifié. C'est une double peine pour lui, car en plus de subir les exactions commises par d'autres, il en porte la responsabilité, avec une accumulation de victimes. Sa famille, puis le vieillard, ensuite le reste des villageois et Glasha. En revanche, lui sera étrangement épargné lors du grand massacre final, comme s'il était condamné à subir ses remords pour le reste de sa vie. La présence, tout au long du film, de l'avion qu'il a repéré au début, est aussi un rappel constant. Il semble suivre le garçon avec son ronronnement glaçant pour lui rappeler en permanence sa faute originelle. On note pourtant qu'au final, nous n'avons aucune preuve qu'il soit véritablement à l'origine de tous ces malheurs. Et il faut savoir que le livre d'origine ne comportait pas cette dimension, ou en tout cas pas explicitement. Le personnage de Fliora y était d'ailleurs assez différent. C'était un garçon courageux qui déterrait effectivement une arme, mais ça ne lui était pas reproché. Il participait valeureusement au combat, ce qui lui valait l'admiration de Glasha qui se plaçait sous sa protection, comme si c'était un adulte ou un professionnel. Alors que dans le film, au contraire, c'est un garçon très naïf, qui n'a aucune conscience de la gravité du contexte. Il veut jouer aux soldats et à la guerre comme les grands, mais Glasha se moque de lui et le considère comme un gamin ridicule. Klimov n'a pas fait un film sur un enfant soldat, mais un film sur un enfant jouant au soldat et qui le paiera très cher. Je pense que son objectif était de pointer la question morale propre à la résistance. Car contrairement à l'action militaire qui est officialisée, dirigée et dont les conséquences échappent à la responsabilité des soldats, la résistance, elle, n'est pas légitime en soi. C'est une dissidence privée dont la responsabilité incombe aux résistants, même lorsque d'énormes représailles sont commises sur les populations civiles. L'enjeu n'est finalement pas de savoir si l'on est prêt à être héroïque, mais plutôt si l'on est prêt à en assumer les conséquences. C'est ce que questionne le réalisateur en nous montrant que la guerre n'est vraiment pas un jeu d'enfant.
Thank you.
S'il est beaucoup question de massacre et de crime dans cette histoire, ce n'est pas pour autant un film d'horreur. En réalité, il repose beaucoup sur le non-dit, l'implicite et la métaphore, plutôt que sur la violence graphique. Il cherche surtout à mettre en place une ambiance malaisante. Il y a déjà plusieurs moments étranges et suspendus dans le temps au début quand les enfants sont dans la forêt. On a l'impression qu'ils sont dans une dimension parallèle onirique, pendant que les adultes, eux, sont au combat. Plus tard, lorsqu'ils retournent dans la maison de Fiora, celle-ci est vide. Le repas est servi à table, mais il n'y a personne. L'ambiance est lourde et malsaine, des mouches tournent autour d'eux. C'est un moment de flottement qui nous fait comprendre que quelque chose ne va pas. Et quand ils quitteront la maison, on ne fera qu'apercevoir très furtivement le tas de corps entassé derrière la bâtisse. Seul Glacha semble les voir alors que l'autre court droit devant lui sans se retourner, car il a sans doute trop peur de ce qu'il pourrait découvrir. Il se précipite ensuite dans un marécage de boue épaisse dans lequel il s'enfonce jusqu'au cou et qu'il met une éternité à traverser. C'est l'extrait que l'on vient d'entendre. Ce marécage qui le bloque, l'entrave et le salit représente son esprit embrumé. Il essaye de nier la réalité mais au fond de lui il la comprend parfaitement. On ne voit pas non plus ce qui est arrivé à Glacha à la fin mais on le devine facilement lorsqu'elle réapparaît, les genoux ensanglantés et le visage pétrifié. Le réalisateur s'applique à souligner visuellement l'impact psychologique des événements sur le garçon en se focalisant sur lui en permanence. Chaque étape du film est marquée par des gros plans de son visage sur lequel on peut lire comme un livre ouvert. Celui-ci sera de plus en plus marqué par la douleur et par les chocs émotionnels, donnant l'impression à la fin qu'il a vieilli 30 ans. J'ai d'ailleurs découvert que Klimov avait au départ envisagé de tourner tout le film avec une caméra fixée directement sur le personnage, face à lui, réduisant la guerre à un décor en arrière-plan. Il a aussi expliqué avoir protégé l'acteur, qui n'était pas un professionnel, en engageant des psychologues pour l'assister et en lui faisant tourner certaines scènes sous hypnose, car il avait très peur qu'il devienne fou. Tout cela se conclut par une séquence magistrale, très originale, durant laquelle Fiora tire à plusieurs reprises sur un portrait d'Hitler. Mais entre chaque coup, nous voyons défiler à l'envers des images d'archives de la Seconde Guerre mondiale et d'Hitler en particulier. Il semble ainsi vouloir rembobiner littéralement l'histoire et effacer le passé. Sauf qu'à la fin du rembobinage, nous arrivons au bout du bout, c'est-à-dire à une photo d'Hitler bébé. Mais à ce moment-là, Fiora, dont les yeux sont pourtant exorbités et le visage rempli de haine, cesse de tirer. Si Requiem date des années 80 et a été oublié par beaucoup, j'ai eu la bonne surprise d'en recevoir un écho inattendu en 2019 à la Mostra de Venise, avec la projection d'un film mystérieux en noir et blanc qui créa la polémique, puisque durant sa projection, des spectateurs quittaient la salle à peu près toutes les deux minutes, car ils ne pouvaient pas supporter le spectacle. Ce film, intitulé The Painted Bird, est réalisé par le Tchèque Václav Maroul, n'est toujours pas sorti en France, ni en salle, ni en DVD, ce qui n'est pas étonnant au vu de sa violence. Adapté du livre « L'oiseau bariolé » de Jerzy Kosinski, il suit les malheurs d'un petit garçon tzigane juif errant sans famille dans la campagne d'un pays d'Europe de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale. Il subira une succession d'outrages dans chacun des foyers dans lesquels il ira se réfugier, tout en étant témoin de crimes de guerre. Le lien est donc assez évident avec Requiem, on retrouve beaucoup d'éléments communs, comme le héros qui est un petit garçon et le contexte. Mais il est souligné explicitement par le réalisateur au cours du film, puisqu'il donne un petit rôle à l'acteur principal de Requiem, Alexei Kravchenko. C'est comme si on retrouvait Fiora des années plus tard, devenu adulte et commandant de l'armée russe, dans une sorte de suite non officielle, le temps d'un passage de flambeau. Si le film est moins marquant que son modèle, il n'en est pas moins fascinant et donc à découvrir absolument. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. On se retrouve le mois prochain avec, promis, un sujet plus léger. En attendant, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Radio B et sur la page Facebook de l'émission. À bientôt !